Les expressions « le royaume des cieux », « le royaume de Dieu », « le royaume de Christ » forment une partie très vitale de la phraséologie biblique et sont bien connues de tous les chrétiens. Mais que veulent-elles dire exactement? Dans la Bible, il y a de nombreuses promesses du royaume. Que signifiera l'accomplissement de ces promesses pour l'humanité? En continuant notre étude de l'Épître aux Hébreux, nous trouverons des faits intéressants au sujet du royaume de Dieu promis depuis longtemps. Ces programmes internationaux d'études de la Bible vous sont présentés par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore, en coopération avec les groupes locaux d'études de la Bible et leurs amis de partout.
Merci Thomas. Le royaume de Dieu est l'un des thèmes principaux contenus dans la Bible. Chaque livre de la Bible, pour ainsi dire, en parle à sa manière. L'Épître aux Hébreux donne des exposés très intéressants concernant ce royaume. N'est-ce pas ton avis, Thomas?
Certainement, Pierre. Au chapitre 12, verset 28, Paul écrit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. »
Ce qui est une façon de dire, dans cet exemple donné par Paul, que le grand but de la vie chrétienne est de parvenir au royaume au moment voulu par Dieu, et d'y participer avec Christ, ce royaume messianique promis. Le royaume qui fera que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans le ciel.
Pierre, tu as dit que la participation au royaume avec Christ est le grand but de la vie du chrétien. Veux-tu dire que le royaume de Christ n'a pas commencé à la première venue de Christ?
Tu l'as bien compris, Thomas. Commençant au verset 22 du chapitre 12, Paul énumère un certain nombre de choses dont nous approchons, suivant le texte grec. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Visiblement, nous n'avons pas encore reçu, mais nous nous sommes approchés.
C'est assez vrai, Pierre. Le texte dit que nous approchons du mont de Sion, de la cité du Dieu vivant. Qu'est-ce que la montagne de Sion? Qu'est-ce que la cité du Dieu vivant?
Eh bien, au temps d'Israël, Jérusalem était la cité de Dieu, et la montagne de Sion, à Jérusalem, était le lieu où se tenait le gouvernement d'Israël.
En d'autres termes, disons la colline du Capitole d'Israël.
C'est juste. Et Dieu emploie ce terme pour symboliser le royaume de la promesse, le royaume dont Jésus sera roi. Par exemple, dans une prophétie du psaume 2, Jéhovah dit au sujet de son fils, le Christ Jésus, « J'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. »
Et si j'ai bonne mémoire, le prophète Ésaïe a prédit que dans le royaume du Christ, la loi sortira de Sion et la parole de Jérusalem. Mais Pierre, que voulait-il dire exactement quand il disait que nous nous approchons de la montagne de Sion? Les disciples de Jésus seront-ils avec lui sur la symbolique montagne de Sion?
Toutes les prophéties le montrent clairement. Tu te souviens peut-être du dernier verset de la prophétie d'Abdias, où le prophète dit avoir vu des sauveurs arriver sur la montagne de Sion, et il explique que lorsque ceci se passera, le royaume sera au Seigneur.
Eh bien, après tout, nous avons trouvé la même vérité dans les enseignements de Jésus aussi bien que dans les autres épîtres de Paul. Les véritables disciples de Jésus ont la promesse d'être des co-héritiers dans le royaume. Puisque c'est la grande espérance chrétienne, il est juste de penser que chaque disciple de Jésus s'approche de la montagne de Sion. Mais pourquoi, Pierre, le prophète Abdias parle-t-il de ceux qui viennent à la montagne de Sion comme des sauveurs?
Parce qu'ils seront des sauveurs de toute l'humanité. C'est le but du royaume de Dieu ou du royaume de Christ. Par l'action de ce royaume, l'occasion d'avoir la vie éternelle, achetée par la mort de Jésus, sera offerte à tous.
Pierre, tu viens de parler du royaume de Dieu ou du royaume de Christ. Ces deux expressions désignent-elles le même royaume?
Je le crois. C'est le royaume de Dieu parce que c'est le royaume qu'il a promis. C'est le royaume de Christ parce qu'il le sera le principal souverain de ce royaume. Ce sera le royaume du ciel parce que l'autorité et le pouvoir de ce royaume ne sont pas d'origine terrestre, mais d'origine céleste. Le prophète Daniel a écrit « Dans le temps de ces rois, faisant allusion aux souverains héréditaires de l'ancien monde romain, le Dieu des cieux suscitera un royaume. » Daniel, chapitre 2, verset 44.
Je remarque que Paul parle des chrétiens qui se sont approchés des myriades qui forment le cœur des anges.
C'est juste. Au premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul parle des anges comme étant des esprits envoyés pour exercer leur ministère. Quand les fidèles disciples de Jésus seront ressuscités d'entre les morts, élevés au domaine spirituel, ils pourront voir les anges et leur tenir compagnie.
Perspective vraiment merveilleuse. Et Pierre, je remarque que Paul a ajouté que nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que l'assemblée des premiers-nés?
Quand la nation d'Israël fut délivrée de l'esclavage en Égypte, les premiers-nés furent épargnés de la mort sous la protection du sang de l'agneau immolé. Paul parle du Christ comme de l'agneau du sacrifice, et l'Église, les fidèles de l'âge de l'Évangile, seront les premiers mis au bénéfice de ce sacrifice et sauvés de la mort.
Et si le terme « premier-né » est appliqué à cette classe de personnes, cela veut dire que les autres seront délivrés plus tard.
Exactement. Par Christ et son Église des premiers-nés, toute l'humanité sera bientôt délivrée de l'esclavage, du péché et de la mort.
Certainement, c'est là une perspective splendide, Pierre. Paul dit aussi « nous nous sommes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection ». Qu'est-ce que cela veut dire?
Eh bien, Thomas, tu te souviens qu'il y a 15 jours, nous avons trouvé, selon les Écritures, que toute la compagnie des serviteurs fidèles du Seigneur, depuis Abel le Juste jusqu'à Jean-Baptiste, ne font pas partie de l'Église du Christ. L'Église des premiers-nés seront les souverains invisibles du nouveau royaume et ses notables anciens seront leurs représentants humains. Naturellement, ils seront ressuscités d'entre les morts. Ils seront ceux dont parle Paul comme les esprits des justes parvenus à la perfection.
Apparemment, Paul, dans ce chapitre, rappelle au lecteur tous les aspects du royaume promis depuis longtemps. Je remarque que dans le verset suivant, il parle de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Est-ce l'alliance que nous avons étudiée la semaine dernière, l'alliance qui a été promise par le prophète Jérémie?
Oui. Tu vois, Thomas, le mot royaume suggère l'idée de souveraineté. Un souverain fort pourrait tenir ses sujets sous son autorité, même s'ils ne sont pas en harmonie avec lui. Jésus sera un souverain fort, et les lois de son royaume seront inflexibles. Mais en même temps, les gens apprendront à aimer ses lois et y obéiront volontiers. Le mot « alliance » suggère une entente et un traité mutuel entre Dieu et les hommes.
Le prophète Jérémie n'a-t-il pas dit que dans la nouvelle alliance, Dieu inscrirait ses lois dans le cœur des hommes?
Oui, et comme Paul le fait ressortir, Jésus sera le médiateur entre Dieu et les hommes pendant la période où cette nouvelle alliance s'établira. L'établissement de cette alliance demandera tous les 1000 ans du royaume messianique.
Pierre, je remarque que Paul parle aussi de ceux qui se sont approchés du sang de l'aspersion. Que veut dire cela?
Eh bien, ici encore, Paul tire une leçon de l'Ancien Testament, se servant de l'expérience d'Israël pour nous aider à comprendre un peu mieux tout ce qui est inclus dans l'établissement du royaume et la conclusion de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Dieu a fait une alliance avec Israël au mont Sinaï, avec Moïse comme médiateur. Cette alliance ne put donner la vie aux hommes. Cependant, quand cette alliance fut proclamée, le peuple d'Israël fut aspergé du sang des animaux sacrifiés.
Cela n'aura pas lieu pour la nouvelle alliance, n'est-ce pas?
Non. Comme Paul l'explique, les choses qui se passèrent en Israël étaient des illustrations. Le sang est le symbole de la vie. Jésus versa son sang ou donna sa vie pour que les hommes puissent vivre. Et quand Paul parle de l'aspersion future du sang à l'établissement de la nouvelle alliance, qui remplacera l'ancienne alliance de la loi, ce n'est qu'une manière symbolique de dire que l'œuvre rédemptrice de Christ garantira alors tous les articles vivifiants de cette alliance.
Cela paraît simple quand on l'a expliqué, Pierre. Me référant au verset 26, je crois que Paul dit « Celui dont la voix ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Quand cette voix de Dieu a-t-elle ébranlé la terre?
Ce fut lorsque l'alliance de loi fut proclamée au mont Sinaï. Le récit montre qu'il y eut des ébranlements de la nature, fort impressionnants. Le peuple d'Israël eut très peur. Et Moïse lui-même dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ».
Quelque chose de ce genre arrivera-t-il de nouveau au moment où le royaume promis se manifestera?
Oui, de façon symbolique. Tu remarqueras que Paul fait allusion à une prophétie à ce sujet. Une prophétie où le Seigneur dit qu'il ébranlera le ciel aussi bien que la terre. Cette prophétie se trouve au chapitre 2 d'Actes G, versets 6, versets 21 et versets 22. Le Seigneur dit que cet ébranlement renversera les royaumes des nations et que cela se passera lorsque chaque homme tournera son épée contre son frère.
En d'autres termes, une lutte internationale où les royaumes de ce monde seront détruits. Je suppose que les cieux qui seront ébranlés font allusion au pouvoir spirituel.
C'est juste. Nous avons appris cela dans l'une de nos études précédentes. Et tu remarqueras, Thomas, que Paul insiste sur tout ce qui sera ébranlé, qui peut être ébranlé, indiquant que, dans l'établissement du royaume de Christ, rien ne pourra rester qui ne soit pas en harmonie avec la justice.
Mais le prophète Agée montre que, comme résultat de l'ébranlement, le désir de toutes les nations s'accomplira.
Oui, et c'est le magnifique résultat de tout cela. Par le fait, nous sommes déjà au temps de cet ébranlement prédit. Tandis que le monde est rempli de crainte, nous savons que le royaume de Christ sera triomphant. N'en est-il pas ainsi, Thomas?
Oui, Pierre, j'en suis sûr. Et il est tout à fait rassurant de comprendre que de toute cette crainte et de tout ce chaos du monde d'aujourd'hui, il sortira un royaume de justice, le royaume promis par Dieu. Et, amis, c'est une des magnifiques vérités qui ressort de l'article « Épître de Paul aux Hébreux » que nous vous offrons pour la dernière fois. Demandez un exemplaire tout de suite. Qui est et que sont les anges? Les êtres humains deviendront-ils des anges? Comment savons-nous que les anciens serviteurs de Dieu qui ont vécu avant la venue de Christ ne sont pas au ciel et n'iront pas au ciel? Quelle récompense auront-ils à la résurrection? Quand le désir de toutes les nations pour la paix, la sécurité et le bonheur seront-ils réalisés? Qu'est-ce que l'Église des premiers-nés? Ce sont quelques-unes des questions dont vous trouverez la réponse dans la brochure « L'Épître aux Hébreux ». Demandez un exemplaire gratuit. C'est la dernière fois qu'il vous est offert sur les ondes. Demandez la brochure sur l'Épître aux Hébreux. Écrivez simplement le mot hébreu, c'est tout ce dont vous devez vous souvenir. Cette brochure vous sera envoyée gratuitement et franco. Ces programmes d'études de la Bible vous sont présentés par l'Association des étudiants de la Bible Aurore qui publie la revue Aurore. Nous serons avec vous la semaine prochaine à la même heure. Parlez-en à vos amis. Et que Dieu vous bénisse tous.